Radio Campus 88.3.
Oh, that's right.
Radio Campus.
Oui, moi aussi je suis désolé. J'aurais dû me contrôler.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas, je suis très content de vous retrouver enfin devant, enfin derrière le micro, de vous retrouver à l'antenne. Ça fait une semaine que j'étais parti, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Je suis très content du coup d'être de retour dans Écoute ta fac. Nous sommes le mardi 14 novembre. Aujourd'hui, nous aurons comme d'habitude l'agenda du bouillon. Nous aurons aussi l'interview de septembre de la compagnie Mangano Massive qui repasse ce soir au bouillon. Et on aura le jeu des morts par Viviane. Coucou Viviane.
Les morts et les nés du jour.
Ah, il y a les nés du coup.
Ah bah oui, sinon il n'y a pas assez de... y a pas assez de diversité sinon.
Et comme d'habitude, on aura la musique de Radio Campus, de la programmation de Radio Campus. Du coup, bonjour Viviane. Ah, et bonjour Jean-Louis que nous recevons bonjour. Pour l'agenda. Absolument. Pour l'agenda Écoute ta fac, c'est tout de suite.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Et du coup, cette semaine, un bal du diable et une résidence végétale.
Absolument. Et de la guitare électrique aussi.
Alors, on n'entend pas Jean-Louis.
Pourtant, le micro est bon.
Est-ce que tu peux baisser tout ce qui se passe derrière déjà ? Jean-Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah bah voilà, moi je t'entends maintenant, en fait, tout va bien.
Donc, je disais qu'effectivement, bal végétal, bal du diable et puis aussi guitare électrique. Et ce soir, donc effectivement, comme tu disais, on a Rémanence, le nouveau spectacle nouveau qu'on va présenter de la compagnie Mangano Massive, qui est en résidence toute l'année à l'Université d'Orléans, dans le cadre de la résidence art et botanique. Avec un petit plus aussi pour Rémanence, puisque ça se passe dans le cadre de la Biennale des Arts du Mime et du Geste, qui est une initiative ou un événement national. Ce spectacle est inscrit dans le cadre de cette Biennale. Rémanence tourne autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice, et donc la compagnie revisite ce mythe. À l'orée par un langage chorégraphique et gestuel et de mime, avec cette pièce inspirée qui nous permet de suivre une jeune femme morte dans un accident qui erre dans les lieux de sa vie et qui donne lieu justement à tout un parcours onirique. Ça, c'est ce soir à 20h30 au Bouillon.
C'est toujours gratuit.
C'est toujours gratuit. Et là, ce soir, c'est gratuit pour tous en plus. Demain, de 16h à 19h, on a rendez-vous avec un atelier, donc la deuxième session d'atelier présentée par l'ensemble Kern, Centre de musique contemporaine, autour de la guitare électrique dans la musique contemporaine. Donc c'est un instrument qui effectivement est tout à fait présent dans cet art. On n'imaginerait pas forcément, prime abord, que de parler de cet instrument dans le cadre de la musique contemporaine, dite contemporaine. Et cet atelier sera présenté, comme la première fois, par le compositeur Julien Malocena. Mais également, il y aura des séances d'écoute en live avec la guitariste Christelle Seri. Voilà, et ce sera donc demain après-midi au Bouillon à 16h, 16h à 19h. Et on termine jeudi. Jeudi à 18h avec effectivement Carrie,
projection
de film du film mythique de Brian De Palma, qui sera présenté par Benoît Baru, enseignant au département de lettres. Voilà.
Et alors, c'est dans le cadre de la journée doctorale
effectivement, ça devait être le je sais pas comment dire le point d'orgue, mais enfin, ça devait être la clôture de la journée. Et donc, le film qui avait été sélectionné pour la clôture, c'était ce film. Alors, effectivement, la question menstruelle, on va dire que ça comme ça, est présente dans le film, mais pas que. Évidemment, il y a plein d'autres choses. C'est un film magistral de Brian De Palma, Donc si vous ne l'avez pas vu, et, enfin si personne, enfin, ceux qui nous écoutent ne l'ont pas vu ou ont envie de le revoir, eh bien qu'ils n'hésitent pas, voilà, ça sera à 18h jeudi soir.
Et il y a toujours l'appel à projet pour le Grand Bain Olympique, le festival des étudiants, oui, qui a lieu d'avril à juin
2024, voilà,
avec une édition spéciale sous le signe des Jeux Olympiques du sport et de la culture.
C'est ça.
Il y a donc un appel à projet étudiant. Toutes les bonnes volontés créatrices sont les bienvenues. L'appel à projet, il est à remplir avant le 31 janvier 2024. Voilà, donc il faut se renseigner auprès du Bouillon.
Absolument. Nous sommes toutes oui.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur lebouillon.fr. Tout de suite, on écoute Flora de Hologramme et après, on retrouve l'interview de la compagnie Mangano Massip.
Super.
Merci Jean-Louis.
Merci tout le monde. Merci Viviane.
Et donc, comme annoncé, nous avons dans quelques instants l'interview déjà enregistrée, je le rappelle, en septembre, quand la compagnie Mangano Massip était passée à l'antenne pour leur premier spectacle, pour leur première scène, et qui est là en résidence à l'université cette année pour le thème art et botanique, et qui revient ce soir pour leur second spectacle, Rémanence. C'est maintenant sur Radio Campus.
Aujourd'hui, tu reçois donc des artistes qui sont en résidence au Bouillon dans le cadre en fait de la résidence hein, de botanique et art et botanique. Il s'agit de la compagnie Mangano Massip.
Donc oui, vous êtes une troupe de théâtre. Le nom vous va bien ou ok. Créé en 2010, si j'ai bien eu mes petites infos.
C'est ça.
Donc est-ce que tout d'abord, vous pouvez présenter un peu l'équipe, enfin votre troupe, tout simplement, vous, parce que aujourd'hui vous êtes deux. Et est-ce que vous pouvez d'ores et déjà présenter un peu l'équipe?
Oui, donc nous sommes Sarah
et Pierre-Yves.
Et Pierre-Yves. Et nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 25 ans à l'école Marceau. Donc on faisait nos études dans une école de mime. Sarah vient plutôt de la danse et faisait déjà du théâtre. Moi aussi, beaucoup de théâtre et plutôt du cirque. Et on cherchait un terrain de rencontre dans notre créativité entre les arts physiques, corporels et la dramaturgie. Donc, quoi qu'il en soit, oui, on fait toujours du théâtre, même si après, on aime être extrêmement pluridisciplinaire. Et donc, on a monté notre compagnie administrativement, il n'y a pas longtemps, mais notre travail de création ensemble, voilà, c'est déjà un joli parcours.
Oui, 25 ans de créativité ensemble. Et oui, donc, comme disait Pierre-Yves, c'est du théâtre. Nous, on appelle ça du théâtre contemporain, on va dire. Voilà, on se met dans cette case-là, parce qu'il faut bien se mettre dans des cases. Mais on est extrêmement pluridisciplinaire. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment le théâtre à partir du corps. Voilà, la dramaturgie corporelle.
Alors oui, c'est ce que je lisais un peu. C'est ça, c'est le mouvement du corps, etc. C'est pas vraiment l'interprétation ou... Enfin, comment dire. C'est le passage d'un art par le corps, d'un message par le corps, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle la dramaturgie corporelle. Donc, ce n'est pas le texte qui fait la dramaturgie. Ce n'est pas forcément l'action. C'est vraiment le corps et son mouvement. Mais du coup, voilà, il y a quand même de l'interprétation. Il y a des personnages, il y a des émotions selon... Voilà,
selon les projets, les spectacles.
Là, sur le spectacle qu'il y a ce soir, c'est les aimants. Donc, c'est quand même voilà, deux amoureux, deux personnages. Alors, ils sont en même temps assez universels et en même temps, c'est quand même deux personnages spécifiques avec leur caractère, leur petite lâcheté, leur vertu et leurs défauts. Donc c'est quand même voilà, un travail d'interprétation, mais qui passe beaucoup par le corps. Et dans le développement, on va dire, dramaturgique, c'est fait vraiment par le mouvement. Donc aussi, on va aux confins de la danse, avec des portées dramatiques. Il y a des petits moments de jonglage, voilà, des petites choses qui font que c'est très pluridisciplinaire.
Ouais, c'est qu'il y a une discussion, un échange qui est plutôt corporel que textuel.
C'est
Est-ce
ça.
Que ça a été voulu, enfin presque naturel, ou c'est un choix qui s'est décidé et qui s'est créé en disant bah, nous, on va plutôt vouloir créer quelque chose de corporel, ou ça s'est fait vraiment naturellement?
Et en fait, on a commencé à créer à partir du langage du mime. Donc. Cette question du corps. Et en fait, quand on commence à travailler comme ça, c'est le fait qu'il n'y a pas plus contemporain que les questions des problématiques liées au corps. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est silencieux, pas du tout, au contraire. En fait, dès qu'on met un corps sur scène, on se pose des questions de mime. Comment je me tiens, comment je marche, qui je suis. Mais l'acteur, après, est absolument libre. Il peut très bien jouer une fleur. Là, on va être dans la résidence art et botanique, ou un personnage comme ce soir dans le spectacle. Le spectacle de ce soir, par exemple, est aussi très inspiré de poèmes des surréalistes Prévert, Éluard. Mais tout ça nous mène à nous poser des questions sur la dramaturgie corporelle, comment on traite les corps, qu'est-ce que ça raconte, comment on maltraite nos corps aussi, comment on communique l'espace entre deux personnes. Voilà, tout ça crée une trame, une dramaturgie corporelle qui nous intéresse et qu'on trouve extrêmement puissant et profond tout le temps. Dès que deux corps se touchent, par exemple, c'est un grand événement. Et il y a des pays dans le monde auxquels c'est absolument interdit. On a tourné en Iran, par exemple, et c'était très fort de se dire... On jouait un bout de la pièce de ce soir qui raconte justement l'histoire fusionnelle de deux êtres. Et en Iran, il était interdit de se toucher. Un homme, une femme en public n'ont pas le droit même de s'effleurer du bout de la main. Donc ça, par exemple, c'est une très forte dramaturgie corporelle, cette interdiction. En creux, le fait de ne pas se toucher alors que deux personnes sont attirées, c'est extrêmement puissant à jouer parce que personne n'est dupe. Tout le monde voit bien que deux corps ont envie de se toucher, mais n'ont pas le droit. Et donc ça devient théâtralement hyper, hyper fort. Et donc ces questions du corps sont tout le temps remises sur le tapis et sont tout le temps très profondes au fil de nos créations. Et après, chaque spectacle que nous faisons est vraiment très, très différent. Donc on explore aussi beaucoup de théâtralité.
Oui, parfois on utilise le texte, parfois on n'utilise pas. Ça dépend vraiment de si c'est intéressant par rapport tout simplement à ce qu'on est en train d'exprimer. L'idée, c'est que ça part du corps, jusqu'où le corps peut exprimer, jusqu'où il arrive à dire ce que nous, on a envie de dire. Au moment où il ne peut plus dire, il n'a plus les mots, et ben on va mettre des mots, ou des sons, ou des mots. Là, par exemple, le spectacle de ce soir est inspiré de poèmes de Jacques Prévert, et de Paul Éluard et d'Apollinaire, mais il n'y a pas de mots. Et parce que l'idée, c'était justement l'incommunicabilité. Donc, voilà, il y a parfois des envies de dire, mais ce n'est pas possible, ça n'arrive pas à sortir, parce que c'est vraiment cette idée-là d'incommunicabilité. Donc, il n'y avait pas besoin de mots, même si c'est inspiré de mots, parce que c'est vraiment inspiré de poèmes. Et souvent, c'est notre... point de départ d'une création, ça peut être un texte, mais c'est pas pour ça qu'il y aura du texte sur scène.
C'est justement ce que j'allais demander pour vos inspirations de pièces. Mm-hmm. Vous partez justement tout le temps d'un texte ou c'est vraiment vous prenez l'inspiration partout où elle peut venir ?
Oui, plutôt partout où elle peut venir. C'est vraiment très, très variable. Mais souvent, après, on fait des collectes de recherches par rapport à l'inspiration. Et du coup, là, on tombe sur des textes qui nous intéressent, ou des peintures, ou des photographies, ou du cinéma,
philosophes,
des philosophes.
Parce que même si on part d'un texte, par exemple, on avait travaillé une adaptation en théâtre gestuel de Hamlet. On va plutôt en extraire les grands thèmes de cette pièce de Shakespeare. Donc on va aussi lire la pièce de Shakespeare parler des problèmes existentiels, de la lâcheté, le fait de prendre position, de passer à l'action, le personnage d'Ophélie aussi, le suicide chez les adolescents, par exemple. Donc tous ces thèmes vont nous relier à d'autres auteurs, les peintures pré-raphaélites qui sont très belles, où on esthétise la mort d'Ophélie dans la rivière, ou des philosophes contemporains qui ont parlé comme ça de cet acte de liberté absolue qui est de se donner la mort pour défier la vie, par exemple. Donc, voilà, donc, du coup, chaque thème est extrêmement large. Et en acte, après, on fait un système plutôt d'écriture de plateau. Donc on va plutôt investir un espace... avec nos acteurs ou avec nous-mêmes, ramener du matériel, des matériaux, donc des textes, ou peut-être des accessoires, certains costumes. Et c'est plutôt par l'improvisation au plateau qu'on va commencer à mettre en résonance toute cette matière accumulée et de voir, tout en jouant, qu'est-ce que ça raconte de plus. Et alors peut-être, dans un deuxième temps, on se remet à table, on réécrit, on refait le tri dans toutes les belles idées qu'on a trouvées, parce que c'est vraiment visuellement... Et c'est en confrontant les éléments physiquement sur un plateau que des images apparaissent. Et donc, une fois que ces images sont apparues, il faut les reconnaître. Et puis là, on va commencer peut-être à les chorégraphier et puis revenir à refaire des improvisations, etc., par des allers-retours. Et c'est une façon activante d'écrire. On ne reste pas devant une page blanche. On cherche des moyens, des processus. On appelle ça aussi un peu un principe de sérendipité. C'est-à-dire qu'on met plein d'éléments là pour chercher. Et on finit toujours par trouver quelque chose. Il faut savoir le cueillir au bon moment.
Oui, voilà, vous n'êtes jamais porté ou fixé justement sur une idée fixe. C'est qu'il y a un travail de recherche qui est grand dans sa quantité de thèmes, d'informations et surtout de ressources pour vos pièces et vos spectacles.
Oui, absolument.
Oui, et souvent, en plus, c'est des thématiques qui nous suivent depuis des années et qui, voilà, du coup, effectivement, il y a beaucoup de matériel et à un moment, hop, on dit, OK, là, il faut y aller, il faut créer quelque chose par rapport à cette thématique parce que... Mais, voilà, par exemple, le spectacle Alice in the Wonderbox, qui était notre création en 2022, c'est un spectacle sur les nouvelles technologies et justement comment le corps aussi se dissout dans ces nouvelles technologies, comment les sens perdent leur importance dans les nouvelles technologies. Et donc notre rapport sociaux, notre rapport à notre image, notre rapport aux autres, etc. Et ce travail-là, qui du coup maintenant est un spectacle qui s'appelle Alice in the Wonderbox, avec voilà une inspiration autour de Alice au pays des merveilles, mais était un spectacle qui avant un parcours de recherche qui vient d'au moins 10 ans. Et qui a, voilà, fur et à mesure changé, en plus avec les nouvelles technologies qui continuent à évoluer, à changer, et ben continue un petit peu à se formaliser, à se finaliser, et puis finalement, ben, on a décidé de faire ce spectacle-là.
Oui, c'était un spectacle, c'était un work in progress pendant presque 10 ans, qui m'a donné lieu à plein de performances, de micro-spectacles ou d'essais. Et à la fin seulement, on l'a concrétisé dans une écriture d'un spectacle qui actuellement tourne.
Oui, c'est que vous vous êtes dit, là, c'est le moment on a atteint la forme finale de ce spectacle.
Oui, oui, oui. Ce qui fait que quand on joue ce spectacle, parfois, on peut aussi proposer beaucoup d'ateliers ou de conférences ou de formes de rencontres autour ou de performances à l'extérieur du théâtre, par exemple. Puisqu'il y a aussi beaucoup de choses à partager sur ces thématiques-là. Et c'est un peu comme ça qu'on va travailler là pour toute cette année sur...
Justement, je revenais sur cette résidence. Ben oui. Comment ce thème est venu à vous, art et botanique? Est-ce que c'était justement le bon moment où vous aviez quelque chose en préparation et du coup vous avez dit bah, on se lance sur ce projet-là parce que nous, en amont, on a quelque chose? Ou alors c'est totalement l'idée qui vous est venue en voyant ce thème-là et vous vous dites... Et vous vous êtes dit, bah, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Lançons-nous là-dedans.
Alors, ni l'un ni l'autre, en fait.
Alors, parce que Arrêt Botanique, c'est la proposition de l'université. Donc, c'était un appel à candidature, à projet. Voilà. Mais c'est vrai que nous, ça fait, pareil, quelques années qu'on est en train de travailler justement sur des problèmes de l'écologie, et puis sur l'idée de l'écologie de l'attention, de l'écologie des sens. Donc on avait déjà fait tout un travail, un volet de recherche qui s'appelait Genius Lodge, sur voilà, l'esprit des lieux, donc l'esprit des lieux plutôt de l'ordre du paysage, donc déjà dans le végétal. Ensuite, on a fait tout un travail sur les animaux, ça s'appelait Animonde en Italie, on a fait tout une recherche vraiment sur l'autre, sur l'altérité non humaine. Donc quelque part, ça continuait notre recherche. C'était ce troisième volet sur le végétal, ça avait tout à fait du sens. C'est pour ça qu'on a répondu à l'appel à projet, parce que tout en étant quelque chose qu'on n'a pas touché exactement, elle correspondait complètement à notre recherche de maintenant, quoi. Ça fait 5-6 ans qu'on fait ce travail-là de recherche.
Vous avez parlé de l'Italie. Vous êtes représenté en France, mais aussi à l'international. Est-ce que, justement, ces voyages à l'international rentrent dans chaque nouveau spectacle au fur et à mesure qu'ils sont écrits, ou le voyage reste un peu une part, entre guillemets, fictive de votre aventure?
Alors, rien de systématique, mais en tout cas, oui, on aime voyager et ça nous nourrit énormément. Tous ces mélanges de cultures et de rencontres. Après, il y a des formes théâtrales qu'on rencontre et qui nous inspirent et qui nous déplacent. et qu'ensuite on essaie de ramener dans ce qu'on connaît, mais en même temps, tout en étant changé. Le buto, le ketchak balinais sont des formes théâtrales qu'on étudie et qui nous amènent aussi à repenser d'autres formes, d'autres rapports public-art ou d'autres places de l'art, pas forcément dans un lieu que artistique, de l'art aussi qui se partage autrement. Quand on fait du théâtre de rue ou du théâtre en salle, voilà, tout ça aussi, c'est des questionnements des langages qu'on peut rencontrer. Et le fait de travailler sur le corps, pas forcément avec le texte, fait qu'on peut voyager absolument partout dans le monde. Et donc, on essaye aussi de garder ce cap. On aime les voyages, donc on en profite bien quand même.
J'ai vu en faisant mes petites recherches sur le site Somim, mm-hmm. où vous êtes référencé, il parle d'un mélange de tracas quotidiens et en même temps de grandes envolées de pensée. Est-ce que c'est un mélange qui se fait dans chaque pièce ou alors c'est deux choses distinctes parce que ça m'a quand même parlé, justement, mm-hmm. ce mélange de tracas quotidiens, de problèmes que tout le monde peut vivre plus ou moins, mm-hmm. et justement de grandes, pour reprendre ces mots-là, de grandes envolées de pensée qui peuvent être presque un peu philosophiques, un peu immuables, oui. qui peuvent être que dans la pensée, justement.
Oui, on essaye, en tout cas, après, tracas du quotidien. Là, par exemple, sur la pièce de ce soir, clairement, parce qu'on est vraiment en plus sur un rapport de couple, donc on a le quotidien, dans Alice in the Wonderbox aussi, parce qu'on est vraiment chez un personnage qui vit sa vie au quotidien. Après, dans d'autres pièces, un peu moins, mais par contre, c'est pas forcément tracas quotidien, mais c'est aussi le détail, c'est-à-dire le détail qui parle, que tout le monde connaît, qu'on peut... se retrouver à faire ou à voir ou à comprendre de manière très facile tous les jours. Mmh. Mais effectivement, toujours avec un discours philosophique derrière. Pour nous, la philosophie est extrêmement importante. Elle nourrit énormément notre travail de création. Et c'est qui rend ce détail-là universel. Donc, partir de... c'est que tout le monde peut reconnaître. Du coup, c'est pour ça que nous, on aime bien dire que notre théâtre est assez populaire parce qu'il peut parler vraiment à tout le monde, aux enfants comme aux adultes et à tout type de public. Et en même temps, il y a ce détail qui parle à tout le monde et cette profondeur poétique et philosophique qu'on essaye de développer pour que ça nous décolle du quotidien et ça nous fasse partir aussi. Justement, c'est que l'art, pour nous, doit faire, c'est nous faire partir un peu ailleurs.
En fait, on est attentif aux détails et on est dans un théâtre gestuel. Donc, parfois, un geste, simplement si on le répète, par exemple, le geste d'ouvrir une fenêtre, si on le répète et si on l'agrandit, d'un coup, le mouvement de notre corps n'est plus seulement d'ouvrir une fenêtre, mais c'est ouvrir ses bras et puis d'un coup, c'est ouvrir un monde et c'est ouvrir un espace et c'est s'ouvrir au monde et refermer une fenêtre. Peut-être un geste très tendre, mais si on le répète ou on change le rythme, ça peut devenir très violent. Et ça peut être aussi un geste de refus. Et donc, un petit geste de quotidien, boire un verre, se serrer la main, peut s'extrapoler et raconter beaucoup d'invisibles. Et c'est ce qu'on aime, nous, c'est rendre visible l'invisible.
Disait un peu au début avec le geste qui donne la parole, ou du moins qui donne une idée au spectateur. Mmh. Comme justement vous disiez qu'il n'y a pas de texte, qu'il n'y a pas de parole. C'est est-ce que c'est assez facile justement de rendre un geste en une idée qui peut être dite et retranscrite?
En fait, c'est parce qu'on sculpte l'imaginaire des spectateurs. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est on fait un geste, donc ça donne une idée. Donc, dès que tu as une idée, cette idée-là, je peux encore la pousser plus loin. Je pars de ton idée et ça en redonne quelque chose d'un petit peu autre. Et du coup, on crée des métaphores parce que d'image en image, on va de plus en plus loin et on des associations d'idées, toutes ces formules de style qu'on peut retrouver dans la littérature pour justement déployer des sens autres.
Après, c'est un travail, c'est un théâtre de métaphores, de symboles. Donc, parfois, tout simplement, le public aussi, il fait sa pièce. Parfois, il vient nous dire des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui vont tout à fait bien. On est très contents qu'ils aient vu ça, mais que nous, on n'avait pas forcément voulu dire ou mettre en valeur plus que ça. Mais elles sont présentes parce que c'est justement, ce n'est pas littéraire, ce n'est pas écrit exactement. Donc ça ouvre à de l'interprétation aussi.
Est-ce que justement, c'est les interprétations que les spectateurs font peuvent vous faire changer un peu la pièce?
Absolument, absolument. C'est très intéressant.
C'est arrivé,
Nous, on aime beaucoup le bord plateau parce que justement, ça nous renvoie à des choses qu'en plus, après, on va pouvoir remettre dans la pièce. Ou ça fait nourrir et grandir la pièce, oui.
Et donc, ce sera un spectacle à retrouver ce soir au Bouillon de 20h30 à 21h45. Donc, du coup, la compagnie Mangano Massip avec son spectacle Rémanence. Dans le prochain quart d'heure, on aura de la musique et l'agenda de Au Campus. Et tout de suite, du coup, c'est Akbad de Bashka. Thank you. Et tout de suite, c'est donc l'agenda de Au Campus. Je te laisse la main.
Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine avec pas mal d'événements. On commence tout de suite avec la soirée bowling organisée par Tributaire, l'Infaso et le BDA Polytech. Ça se passe du coup demain, mercredi, au bowling d'Olivet à partir de 20h30. Donc les places sont limitées, elles sont à 7,50€ pour faire deux parties. Donc allez les voir pour récupérer vos places. On enchaîne avec l'AGSO, donc l'association de géologues, qui organise une conférence mercredi 22 novembre à 18h à l'OSUC. Donc la conférence, c'est modélisation des interactions aux roches, donc de l'atome à la formation géologique. Si ça vous intéresse, donc c'est présenté par Christophe Tournassa et la conférence sera donc suivie par un buffet. On continue avec Batard, donc l'association de spectacle de la fac, qui reprend ses ateliers maquillage. Le prochain, c'est le 18 novembre. Donc c'est sur inscription, c'est ouvert à tous et c'est pour tous les niveaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer les voir. Le BDEG ensuite qui organise une séance ciné ce jeudi pour voir le dernier Hunger Games. Donc c'est 5€ pour les adhérents et 7€ pour les non-adhérents. Donc c'est quand même très intéressant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter pour avoir une petite place. On vous en parlait déjà la semaine dernière et c'est toujours le cas pour le mois du coup. À l'occasion du mois sans tabac, Kinergy et Psychomotion qui mettent à disposition des kits pour arrêter de fumer. C'est en libre service dans le hall de l'EUK CVL. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'arrêter de fumer, vous pouvez récupérer un petit kit pour vous aider. ELSA, l'association du coup, de droit euro, qui organise une simulation des Nations Unies. Donc on n'a pas encore de date pour l'instant, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, c'est Elsa Orléans, pour avoir les informations en temps voulu. Il s'agira du coup d'une sorte de petite simulation où chaque participant incarnera un pays et le thème sera du coup le conflit armé. Justice qui organise ce soir, oui. Donc de 16h à 17h30, leur conférence sur le droit humain, donc présentée par Anna Koudinova. Donc c'est en amphi Cantillon, en DEG. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Les STAPS, encore eux, qui font une soirée Onova. Cette soirée, c'est la soirée pirate. Donc si tu veux découvrir la légende du capitaine Titus, ça se passe là-bas. Les places sont en vente dans le hall STAPS pour 4€ pour les adhérents. Et sinon, c'est 6€ pour les non-adhérents. Bien sûr, si vous venez sur place, c'est possible et ce sera 7€. Et on termine par l'Amigo, qui sera présente ce vendredi au gymnase universitaire pour le forum étudiants-entreprises afin d'orienter les étudiants et les aider à chercher un stage ou une alternance. Donc, avis aux étudiants en sciences et techniques de L3 ou M2, rendez-vous de 9h à 15h ce vendredi pour essayer de trouver un stage ou une alternance.
Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de belles sorties. Tout de suite, on continue ce quart d'heure musical avec Sinporn de Dressey Amarisi. Thank you.
Campus, à l'instant, c'était Super Parka avec le titre Rase. Et une fois n'est pas coutume, eh bien, aujourd'hui, on vous propose un petit jeu radiophonique. On est beaucoup autour des micros, dans le studio. Salut Alexia.
Salut.
Salut Fatine.
Salut.
Salut, bah, Lucas, t'étais déjà là, mais on te resalue.
Ouais, maintenant je joue.
Et Julien, coucou.
Bonjour.
Et puis Théotime est là avec nous également. Ah bah toi tu marches pas. Toi.
Ah oui.
Voilà. Faut lui trifouiller un petit peu le jack derrière. Salut Théotime.
Salut.
Ouais, ça va, j'ai du mal aux oreilles. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Le 14 novembre 1994, c'est le début des liaisons commerciales d'Eurostar dans le tunnel sous la Manche.
Non.
C'est aussi... oui.
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, exactement. C'est aussi en 2018 que la Commission européenne, le 14 novembre, impose la radio numérique dans les autoradios vendues dans l'Union européenne.
Voilà. Ça sert à quoi ?
Ça sert à ce qu'on écoute Radio Campus en DAB+ dans sa nouvelle voiture. Vroom, vroom.
En 2018, ils l'ont imposé dans la construction
d'autoradio. Déjà en
2018,
exactement.
Alors qu'ils ont lancé le projet en 94.
Et que ce n'est pas encore tout déployé, mais bientôt, en effet. Alors, le 14 novembre, il y a plein de gens qui sont nés et il y a moins de gens qui sont morts, en fait. Donc, on va avoir beaucoup de nés du jour, mais pas beaucoup de morts du jour. Alors, on cherche un peintre français né le 14 novembre 1840 à Paris. Il est mort le 5 décembre 1926. Et si je vous dis où, vous allez trouver tout de suite. Non, ce n'est pas Gauguin, Julien. C'est un peintre français, un des fondateurs de l'impressionnisme.
Renoir.
Ce n'est pas Renoir non plus.
Monet.
C'est Monet. Il est mort à Giverny le 5 décembre 1926. Claude Monet. Alors, on continue avec une autre peintre. Elle est née le 14 novembre 1885 à Gradiche, en Ukraine. Elle est morte le 5 décembre 1979 à Paris. C'est une artiste peintre française d'origine ukrainienne, on le disait. Elle est adoptée par un oncle maternel, Henri Terck, dont elle prend le nom. Et elle étudie assez peu les beaux-arts, le dessin un petit peu. Et puis également à Paris, à l'Académie de la Palette, dans le quartier du Montparnasse.
Elle Tamara de Lempicka.
Ce n'est pas Tamara de Lempicka. Elle a été naturalisée française grâce à un premier mariage avec Willem Hunde en décembre 1908. Alors, elle a une période fauve que lui a sans doute inspiré Vincent Van Gogh ou Paul Gauguin. Elle invente avec son deuxième mari. Alors ça, c'est important. Elle a un mari, en fait, qui a le même nom qu'elle, bien sûr. Hein. Quand on se marie, souvent, c'est ce qui arrive. Et son mari est très connu également, en fait. Et ils inventent tous les deux, en fait, une forme de peinture capolinaire définie du terme vague d'orphisme qui correspond à aucune tendance réelle. Alors, entre ce mari et cette femme, en fait, ils ont surtout travaillé, en fait, ensemble sur la recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs simultanées.
Une tendance on dirait du soulage.
D'autres peintres après eux, notamment Fernand Léger et Jasper Johns. Est-ce que vous connaissez ?
Non.
Sonia Delaunay.
Ah, Sonia Delaunay.
Voilà,
ah,
son mari Robert Delaunay.
Et morte un 5 décembre, donc comme Monet juste avant.
C'est assez troublant, en fait.
Troublant, en effet. Ouais. Coïncidence, je ne crois pas. C'est encore un coup des intraterriens.
Ah, du peuple de l'intraterre.
Ils reviennent encore. Alors, on cherche une actrice américaine. Elle est née le 14 novembre 1906 à Cherryvale, dans le Kansas. Elle est morte le 8 août 1985 à Rochester, dans l'État de New York. Elle est connue pour ses rôles dans des films muets des années 20 aux États-Unis, mais aussi pour ses films européens de 1929 et 1930, Loulou ou Le journal d'une fille perdue, et Prix de beauté. Elle commence comme danseuse. Non, elle est connue pour une célèbre coupe de cheveux.
Sarah Bernard ?
Non, c'est...
Mathieu.
Non, je sais qui c'est. Jane Seberg ?
Non.
Non ?
Non, elle est beaucoup plus âgée. Enfin, elle est née beaucoup plus tôt que Jane Seberg.
Ah, oui.
Et puis Jane Seberg, elle est morte avant 85.
Vous ne l'avez pas non plus ? Loulou, ça vous dit pas quelque chose, Loulou ?
Le Cacharel, mais
oui,
bah
voilà, ça vient de là, en fait. Hein.
Loulou. Oui, c'est moi.
Connu pour une coupe de cheveux.
Ouais, sa coiffure si caractéristique déclenche une nouvelle mode.
Un carré.
Mode des garçons, les flappers.
Il est comme ça, là.
Voilà,
ça
dans
ne
le monde
voit
entier.
Pas à la radio, mais...
Oui, le carré remontant.
Nous, au moins, on voit.
Un petit carré court avec une frange.
Birdie ?
Non.
Ah, je suis sûre qu'on sait qui c'est.
Ah, vous savez qui c'est ?
Bah oui.
Bon, elle a joué dans diverses films.
Ginger Rogers.
On parlait tout à l'heure. Non, c'est pas la même époque, mais c'est un tout petit peu avant, je pense. Une fille dans chaque port de Howard Hawks, par exemple. Loulou en 1929. Le journal d'une fille perdue en 1929. Et puis également dans des films parlants. Qui sont pas forcément extrêmement connus, mais on peut compter parmi eux Hollywood Boulevard de Robert Flory en 1936.
Quand tu vas dire le nom, on va tous faire « Ah mais oui !»
C'est sûr. Voilà, Jean-Luc Godard lui a rendu hommage via Anna Karina dans « Vivre sa vie » en 1962. C'est Louise Brooks.
Ah oui, Louise Brooks. Bah oui. Oui, là, du coup, oui. Ah oui, Louise Brooks.
Ah ouais.
Alors, on cherche maintenant. Alors on vous a dit que c'était un petit peu dur, hein, quand même. Quoi. Alors, celui-là, il n'est pas le plus simple, hein, non plus.
Ah, mince.
On cherche un homme politique, juriste, universitaire, politologue, diplomate égyptien.
Nasser.
Il est né le 14 novembre 1922 au Caire. Il est mort le 16 février 2016 au Caire également. Il a été le sixième secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Kofi Annan.
Boutros Ghali.
C'est Boutros Ghali. Bravo, oh là là. Julien.
Mais
bravo,
il est injouable. Julien. Il est injouable.
Alors, c'est pas facile et ça continue.
Super.
D'accord.
Alors, on cherche un héritier, homme d'affaires multimillionnaire, photographe et sportif de haut niveau de nationalité allemande et suisse. Né le 14 novembre 1932 à Meinberg, près de Schweinfurt. Il est mort le 7 mai 2011 à Gstaad, en Suisse.
Gstaad,
voilà, bah, Gstaad. Ça vous dit un petit peu, en fait, voilà, c'est un...
Tu as tué mon frère à Gstaad.
C'est un jet-setter, hein, il faut le dire. Il est considéré comme un playboy des années 60-70. Il est connu, en fait, surtout pour avoir été marié avec une actrice française.
C'est pas Eddie Barclay.
C'est pas Eddie Barclay.
J'y pensais.
C'est l'époque.
Il a été marié à qui, Brigitte Bardot ?
Oui.
C'est pas Alain Delon. Elle a été mariée à Roger Vadim, mais c'est pas lui non plus.
Non. Un jet-setter.
Collectionneur d'art moderne.
Photographe. Robert Hamilton.
Bob Slager. Wow. Passionné de photographie, de mathématiques, d'économie, d'astrologie.
Non mais le mec, oh, quoi.
Ma seule référence.
L'argent, c'est trop cool.
Ça donne du temps.
L'argent, ça a l'air trop bien, quoi.
Attends, attendez, je vais fermer le micro et l'ouvrir, ouais. Si vous voulez faire une petite manipulation. Alors on cherche toujours cet homme. Non, vous ne l'avez pas non plus.
Il s'appelle Richard ?
Non, pas du tout.
C'est pas le mec de Virgin, alors ?
Non.
Il est mort en 2011.
Mais il n'est pas mort, le mec de Virgin.
Il n'est pas mort, en fait.
Ah, il est
mort en 2011, Akstad. Si. On vient
il n'est pas mort, le mec de Virgin ?
Non.
Avant, j'ai cru. Bon, bah, je ne vois pas.
Gunther ?
Steiner.
Gunther Sachs.
Non,
je ne l'avais pas du tout.
Marie de Brigitte Bardot. Voilà.
Combien de temps ils sont restés mariés ?
Je ne sais pas du tout. Alors, on cherche maintenant... Alors, ça ne nous rajeunit pas non plus. Hein. On cherche... je n'ai pas forcément les références des plus jeunes, désolé. Un journaliste, critique de cinéma, animateur d'émissions de télévision, réalisateur français de longs métrages. Il est notamment connu pour avoir créé et présenté l'émission d'interview de personnalité Le Divan sur FR3.
Henri Chapier.
C'est Henri Chapier, bravo. Il est né sous le nom de Henri Chapiro le 14 novembre 1931 à Bucarest. Il est mort en 2019.
C'était trop bien Le Divan. Psychanalyse en direct, tu découvrais tous les traumas d'enfance des acteurs et des personnalités qui passaient dessus. Quoi. C'était génial.
Sympa.
Alors, vous êtes toujours sur campus. On joue au né et mort du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Et puis, nous cherchons une compositrice et interprète de musique électronique américaine, née le 14 novembre 1939 à Pawtucket, dans le Rhode Island.
Wendy Carlos.
C'est Wendy Carlos, bravo. Cette personnalité transgenre est née dans une famille ouvrière et puis elle est devenue compositrice. Compositrice en interprétant des œuvres notamment de Jean-Sébastien Bach ou de Beethoven au synthétiseur modulaire Moog. Et elle est connue pour la BO du film Orange Mécanique, bien sûr.
Et de Barry Lyndon aussi.
Et Barry Lyndon. Voilà,
quasiment presque tous les
Kubrick.
Alors, celui-là, il est facile. Normalement, vous l'avez. Hein
Nous cherchons une personnalité née le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham à Londres.
Le prince Harry.
C'est le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne,
voilà.
d'Irlande du Nord. C'est Charles III. Alors qui l'a ?
C'était
c'est
Julien.
Encore Julien, mais faites-le taire. Mettez-lui du sparadrap autour de la bouche.
Bah, il a quand même dit le prince Harry en 48 en premier, donc bon, pas mal.
Ouais, toi, t'as un vocodeur, il est cool.
Ça fait un peu mal aux oreilles, par contre, tu sais aussi. Oui, voilà, arrête de parler.
Hein. Alors, nous cherchons un imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur, compositeur, poète, écrivain, poète. Écrivain, producteur, animateur d'émissions de divertissement de télévision française et ex-dirigeant de clubs de rugby. Il est né le 14 novembre 1953. C'est Patrick Sébastien. Et Théotime l'avait, mais trop tard. Désolé. Ensuite, on cherche un homme politique français, un diplomate, écrivain, avocat, né le 14 novembre 1953 à Kémisset, au Maroc. Diplomate de formation, proche collaborateur de Jacques Chirac. Il est successivement ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis de l'Intérieur, Dominique de Villepin, de 2004 à 2005. Premier ministre également. Alors, celle-là, elle est encore pour toi, Julien. Mais bon, on ne pouvait pas, en fait, faire les morts du jour spéciales, Julien, parce que Julien nous quitte bientôt, en fait, malheureusement. Il s'en va vers d'autres aventures.
En fait, on l'a juste laissé gagner aujourd'hui.
Peut-être radiophonique, oui. Qui sait.
Il ne gagne pas du tout à chaque fois.
Et on sait que Julien, en fait, aime particulièrement le cyclisme. Et là, on va chercher
coureur
cycliste français. Vous le connaissez tous. Il est né le 14 novembre 1954 à Iffinac. Dans les Côtes d'Armor. C'est Bernard Hinault, professionnel de 1975 à 1986, surnommé le blaireau, en effet. Alors, encore une fois, vous l'aurez tous, celui-ci, en fait, on le cherche. Il est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte. C'est un animateur de radio et de télévision.
C'est Arthur.
Producteur et comédien français.
C'est Nagui.
Pas Arthur, c'est Nagui.
Oui, Nagui, je suis bête.
J'en ai un.
Ouais, bravo Lucas.
Ouais, deux.
Bravo.
Alors, bravo Lucas. Il est 56, encore quelques minutes avec nous pour savourer ce jeu radiophonique. Alors, on cherche un acteur, réalisateur et romancier belge. Il est né le 14 novembre 1961 à Namur. Alors,
acteur, réalisateur et romancier. Un des frères d'Ardennes.
Alors, ce n'est pas un des frères d'Ardennes.
Il a dit Damso, Théotime.
Bravo. Pas acteur, Damso aussi. En 1981, il obtient le premier rôle dans Allons enfants d'Yves Boisset aux côtés de Jean Carmet, dans lequel il joue un jeune insoumis obligé de devenir enfant de troupe. Il tourne également avec Claude Chabrol dans Poulet au vinaigre face à Pauline Lafont et Jean Poiret, un inspecteur de police peu scrupuleux. Il est aussi réalisateur, particulièrement remarqué en 2003 avec la trilogie constituée des films Un couple épatant, Cavale et Après la vie.
C'est pas la Nurse ?
C'est pas la Nurse. Je ne connais pas la Nurse.
Bully la Nurse ?
Non. Alors, ces trois films, dont les actions s'entrecoupent, racontent les mêmes événements sur des modes différents. Comique dans Un couple épatant, policier dans Cavale et dramatique dans Après la vie. Cette trilogie remporte le prix Louis Deluc la même année. Il réalise également Rapt en 2009, un film librement inspiré de l'affaire Empin, qui doit être une affaire belge de serial killer. Son premier roman, Les Tourmentés, est sorti aux éditions Alma le 19 août 2022. Il remporte le prix Régine Desforges. Il est le frère d'un autre acteur réalisateur du film culte C'est arrivé près de chez vous, Rémi Bellevaux. C'est Lucas Bellevaux.
Ah, Lucas Bellevaux.
Ensuite, celui-là, elle est vraiment facile. Je pense que vous allez tous la voir, en fait. On cherche à nouveau un animateur de radio et de télévision qui est né le 14 novembre 1963 à Lyon. Il est passionné par les familles royales et régnantes.
Stéphane Bern.
Effectivement.
Alors, celui-là, il n'est pas facile du tout. Ah. Il va falloir trouver son nom, ça c'est pas simple. Vous allez tous connaître le groupe, mais pas le nom. Alors on cherche un batteur américain, principalement connu pour être membre des groupes Blink 182.
Travis Barker,
bravo Alexia.
J'étais coupé l'herbe. Hein. D'ailleurs, il a les mains en sang. Tu l'as vu la vidéo là où il se blesse pendant un concert et il est obligé de mettre des bandages pour finir le concert.
Non, par contre, moi je l'ai vu faire de la batterie en tournant à 360 degrés comme ça. C'est incroyable.
Et puis, pour terminer, parce qu'il est 12h59, on va passer à une autre passion de Julien, qui est
la chimie.
La bande dessinée, pas la chimie.
On a trop, Julien, des passions.
Voilà, non, il a trop de passions, c'est semblant, facile en fait. C'est facile de faire des émissions avec Julien. On cherche un éditeur de bande dessinée belge.
D'Argo.
Eh bien non, c'est l'autre.
Dupuis. Voilà.
Né le 10 juin 1918 à Marcinelle, il est mort le 14 novembre 2002, éditeur de bande dessinée belge, bien sûr,